Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, c'est bien sûr. Où avais-je la tête? Où avais-je le cerveau? C'est l'heure de l'émission. Joris Blondeau, ça représente quoi pour vous d'être entrepreneur?
Écoutez, être entrepreneur pour nous en tous les cas, pour moi, pas grand-chose puisque je ne le suis pas. Mais par contre, ça représente beaucoup pour moi de pouvoir en accompagner.
Eh bien, on va voir ça avec vous.
Exact.
Et pour vous, Louise Colin-Kaminski, c'est quoi d'être entrepreneuse aujourd'hui?
Alors pour moi, entreprendre, c'est pouvoir ouvrir le projet de ses rêves, pouvoir partager sa passion et apprendre à s'entourer des bonnes personnes. Et voilà.
En voilà une sacrée question. En tout cas, avant d'entrer dans les détails, on va faire durer un peu le suspense, si vous me le permettez. Nous allons développer ce sujet, l'entreprise, l'esprit en entreprise. On va voir ça avec vous pendant ces 56 minutes, Joris Blondeau, Louise Colin. Et on va voir aussi ça avec un invité surprise qu'on attend. Voilà, allez, en route vers de nouvelles aventures.
Vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'étincelle dans la ville. C'est sur Allegre, heureux de vous retrouver. Bonjour, Joris Blondeau.
Joris Blondeau, bonjour. Oui.
Ouais, ça y est, j'ai commencé. Ouais, je vous avais dit tout à l'heure en préparant l'émission que j'allais dire des bêtises. Bonjour Louise.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, aujourd'hui, vous allez être nos invités témoins. Nous sommes en votre compagnie. Vous avez bien voulu accepter de nous recevoir, de témoigner. Et c'est depuis le Créa Café Bailou, et vous êtes ici pour quelque chose en tout cas, dans le 20e arrondissement que nous réalisons cette émission. Voilà. C'est pas par hasard, parce que nous sommes aujourd'hui dans le domaine de l'initiative économique. Et ici, il se passe beaucoup de choses. dans ce café créatif. Voilà. Et comme le veut la tradition dans cette émission, tous nos invités présents, vous deux, et puis peut-être tout à l'heure Martial, s'il arrive à l'heure, on va essayer de voir avec lui, eh bien, pendant ces 56 minutes qui vont suivre, vous allez être les étincelles de cette émission. Louise, vous êtes créatrice d'un lieu, mais vous avez fait surtout appel à une structure, l'ADI. Ça s'est passé comment ?
Ça s'est très bien passé. Dès mon premier rendez-vous, j'ai été extrêmement bien écoutée par ma conseillère Léa et qui a tout fait pour soutenir mon projet et le financer.
Joris Blondeau, vous êtes directeur territorial de l'ADI Paris. C'est quoi un directeur territorial de l'ADI de Paris ?
Eh bien, écoutez, un directeur territorial, c'est quelqu'un qui accompagne les équipes, en tout cas parisiennes, donc à l'échelle de Paris, je précise bien, vers le métier, en fait, de pouvoir accompagner les entrepreneurs et les financer, notamment à l'échelle de Paris.
Ce sont des entreprises très particulières, hein. C'est pas des structures classiques, en tout cas, même si ça prend de l'ampleur en France depuis quelques années, le chômage est là, il peut pallier peut-être ce système de micro-entreprise au chômage. En tout cas, c'est un pied à l'étrier pour entrer dans le travail. Finalement, c'est une forme de production, c'est une forme de création de richesse. Et surtout, c'est grâce à l'ADI aujourd'hui qu'on va regarder avec vous, on va comprendre ce qui se passe à l'ADI et on va voir ce que c'est l'ADI en fait. C'est une association de régime de la loi de 1901, une association classique, fondée par l'économiste franco-polonaise Maria Novak en 1988. Cette association facilite l'accès au système bancaire aux personnes exclues du système traditionnel. Alors ça, c'est très important, aux personnes exclues du système traditionnel, bah oui. C'est-à-dire aux personnes, vous allez nous l'expliquer, Joris Blondeau, hein, afin de créer leurs propres entreprises, leurs propres emplois grâce au microcrédit accompagné. Depuis 35 ans, l'ADI œuvre en France pour que chacun puisse devenir entrepreneur. Mais ce droit à l'initiative économique, il existe depuis toujours. Bien sûr, on n'a jamais interdit à quelqu'un de créer une entreprise. Mais à quelles conditions ? Et surtout, et c'est à vous, Joris Blondeau, que je pose la question, que fait de plus l'ADI en matière de droit à l'initiative économique ?
Eh bien, écoutez, l'ADI travaille depuis un petit moment. Maintenant, vous l'avez précisé, plus de 35 ans à la création et au soutien des entrepreneurs dans la création de leur activité. En quoi l'ADI fait quelque chose de plus ? C'est qu'effectivement, on a comme politique de pouvoir aussi aller au contact des entrepreneurs pour pouvoir lever les freins à l'entrepreneuriat, donc via deux leviers, le financement et l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc le fait de faire ça et d'être présent beaucoup sur le terrain, ça nous permet finalement d'aller au contact de notre public et de pouvoir essayer au maximum de résoudre ces problèmes d'insertion et d'exclusion en fait finalement.
Alors tout le débat est là, l'inclusion, l'insertion et l'exclusion. Vous l'avez bien résumé, Joris Blondeau, effectivement n'est pas entrepreneur qui veut comme il veut et surtout quand on n'a pas de moyens, c'est ça le fond du sujet finalement.
Exactement. Donc c'est vrai que la politique aussi de l'association et le sens de l'action de l'association, c'est de permettre à celles et ceux qui n'ont pas forcément de capital de départ de pouvoir venir solliciter l'ADI, solliciter un prêt et pouvoir se faire accompagner et démarrer en toute sérénité son activité.
Si vous me le permettez, Joris Blondeau et Louise Collin, on va continuer avec et revenir avec Maria Novak parce que c'est quand même le personnage important de l'ADI, celle qui a créé cette association. Un jour, il va se passer une chose incroyable pour elle et ça sera une source d'inspiration. Elle rencontre Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh et prix Nobel de la paix dont elle s'inspire pour créer l'ADI. La structure qu'elle va mettre en place deviendra la première expérience de microcrédit en Europe occidentale. Faute d'avoir obtenu le soutien des pouvoirs publics et des grandes organisations non gouvernementales, qu'elle a sollicitées à l'époque bien sûr, elle leur demande de l'aide. Alors elle fonde l'ADI sous forme associative sans moyens financiers. Depuis janvier 2005 d'ailleurs, l'association est reconnue d'utilité publique. Sans argent, comment l'association pour le droit à l'initiative économique a-t-elle réussi à financer les emprunteurs ? Racontez-nous, Joris Blondeau, comment vous faites ?
Ah bien, écoutez,
où est-ce que vous trouvez l'argent?
Oui. Écoutez.
Parce que, en fait, vous prêtez de l'argent qui vient de quelque part.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est important de revenir aussi sur la genèse et de comment ça s'est constitué. Il faut savoir que le modèle économique de l'association aujourd'hui, il est assez hybride. Et donc, au niveau des ressources, on a une partie des financements qui sont eux-mêmes issus de la banque. Donc, on a des partenaires financiers qui nous financent et qui nous permettent de prêter cet argent aujourd'hui aux entrepreneurs de l'ADI. Et nous avons également, comme toute association, au niveau de notre modèle économique, une partie qui est représentée par des subventions.
Et puis j'imagine, l'argent que vous prêtez est remboursé, en principe, et ça fait un roulement.
Exactement. Et donc, tout le sens aussi de l'action et du pilotage aussi de cette activité dépend aussi fortement des clients et des personnes finalement qui bénéficient de ces propres fonds. Parce que quand on leur prête ces fonds, l'objectif c'est qu'ils remboursent pour prêter à la personne, au voisin ou à l'ami du quartier également.
Alors justement, on vient au cœur du sujet, sur l'ADI, le financement, on parle d'argent, hein, on a le droit de parler d'argent dans cette émission. Peut-on considérer que cette association, l'ADI, donc votre association pour le développement à l'initiative économique, est malgré tout une banque? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce une banque pas tout à fait comme les autres, une banque atypique, un organisme de crédit? Comment on pourrait définir l'ADI?
On a des similitudes hein, au travers de certaines missions, mais l'ADI se distingue fortement de la banque de la part de sur deux leviers principaux. Le premier, c'est la mission. Donc, quand la mission de la banque, ça va être de générer de l'argent, de faire du profit, la mission de l'ADI, c'est d'avoir un impact social fort auprès de l'inclusion de son public. Et un des deuxièmes leviers qui nous différencie beaucoup, bah, c'est justement ce public qui, lui, au contraire de la banque, va être pas forcément bancarisable. Donc voilà, je m'explique. Vous allez voir une banque, vous avez votre compte. Si vous avez une bonne situation, vous pouvez avoir accès à un crédit bancaire auprès de votre banque. Ce qui n'est pas forcément le cas du public de l'ADI, qui lui n'est pas forcément bancarisable au départ.
Bancarisable, quel terme! Alors justement, c'est qui le public de l'ADI? D'où ils viennent? Ils ont quel âge? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Comment ça se passe pour eux?
Alors c'est vrai que le public de l'ADI, il est très 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 large. Nous accueillons toute personne qui souhaite développer une activité à partir de 18 ans. De tous horizons, on accompagne énormément de personnes qui sont de quartier, des personnes qui ont...
Quand vous dites de quartier, ça veut dire quoi?
Alors, des habitants de quartier prioritaires et politiques de la ville.
On n'hésite pas à le dire, hein. dans des zones où c'est pas facile, où parfois, quand on est issu de ces endroits-là, c'est pas simple comme bonjour.
Entre autres, exactement, comme sens pour nous de pouvoir les accompagner et apporter l'information, notamment sur la création d'entreprises et les moyens et les leviers dont ils disposent, mais qu'ils ne sont pas forcément au courant, pour pouvoir créer leur activité.
Je rappelle que nous sommes en compagnie de nos invités Joris Blondeau et Louise Colin-Kaminski, qui est partie d'ailleurs vers des activités là à côté de nous. Elle va revenir nous voir dans quelques minutes. Et c'est elle qui nous reçoit ici d'ailleurs, hein, depuis le Créa Café Bailou dans le 20e arrondissement de Paris, où nous réalisons cette émission. Et nous allons faire une première pause musicale, si vous me le permettez, Joris. Voilà. La chanson qui va suivre a été écrite par Serge Gainsbourg. Vous aimez Serge Gainsbourg?
Oui, bien sûr.
Je vais vous épargner l'histoire complète de cette chanson qui a connu une trajectoire complexe, remplie d'embûches. Mais malgré tout, permettez-moi quelques détails. Nous sommes en 1974. La chanteuse Dani est sélectionnée par l'ORTF pour représenter la France pour la 19e édition du concours de l'Eurovision. Mais à la suite de la mort du président de la République, la France se retire du concours qui avait lieu le jour des obsèques nationales de Georges Pompidou. N'ayant pas participé au concours de 1974, Dani se voit proposer l'année suivante le même concours. Serge Gainsbourg, avec la poupée de son interprétée par France Gall, avait déjà 10 ans auparavant remporté le prix de l'Eurovision. Une maquette est alors enregistrée par Gainsbourg lui-même afin d'aider Dani dans l'interprétation de la chanson. Malheureusement, cette chanson est refusée par Antenne 2. qui est diffuseur de l'événement, et là, patatras, le titre est bloqué pendant un certain temps pour une question de droit de maison de disques. Il en existe plusieurs versions, une chantée par Dany, une autre en duo, une troisième par Gainsbourg, mais cette chanson va dormir sur les étagères pendant des années, et c'est en 1990 qu'Étienne Dao encourage Dany à reprendre le morceau. Là, je vous la fais brève, l'histoire, elle est encore plus longue que ça. Si vous avez envie et si vous avez la curiosité d'aller voir sur internet l'histoire complète, allez-y. Vous serez surpris car c'est incroyable ce qui s'est passé pour cette chanson. En tout cas, avant qu'elle devienne extrêmement populaire et avant qu'elle devienne un tube, elle a donc connu des méandres. Mais là, on écoute Comme un boomerang par Étienne Dao.
Des booms et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à ma bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues,
comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté.
Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue prête pour toi à me damner.
Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer.
Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer.
Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer. Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue,
c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de l'Étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, c'était Comme un boomerang, interprété par Étienne Dao. C'est sur Aligre, c'est dans l'Étincelle dans la ville. Et nous continuons cette deuxième partie de l'Étincelle dans la ville depuis le Créa Café Bailou, dans le 20e arrondissement de Paris. À la découverte, l'Association pour le développement à l'initiative économique. Avec vous, Joris Blondeau, on va terminer cette partie avec vous. Alors, l'ADIS, c'est quoi aujourd'hui en quelques chiffres?
Alors, ben écoutez, l'ADIS, en quelques chiffres, c'est environ 7000 personnes accompagnées et financées, habitants de quartier. Et ça représente pour l'association 23% de son activité. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a un impact il y a un impact naissant de l'association dans les quartiers, mais on a l'ambition de faire plus. Quand on sait que 16% des Français ont une entreprise, à contrario, ça représente seulement 3% des habitants de quartier. Donc 5 fois moins d'habitants de quartier ont une entreprise en France. Et donc ça montre qu'il y a un axe fort de travail que nous, on doit mener. Et pour cela, on continuera de mener des initiatives, de venir au contact du public et de créer des actions.
Joris Blondeau, la question qui me turlupine depuis le début de cette émission, on arrive, on frappe à la porte de l'ADI, il faut quoi? Il faut des diplômes, il faut avoir une expérience, comment ça se passe?
Alors, pour pouvoir bénéficier des services d'accompagnement et de financement de l'association, pas besoin de diplôme, pas besoin d'apport. C'est deux éléments qui sont très importants et qui permettent aussi à nos auditeurs de comprendre que ça reste accessible. Au niveau du processus, il y a une mise en relation qui est faite en agence, soit de manière téléphonique, soit en physique. Nous avons des agences physiques sur lesquelles vous pouvez venir spontanément vous déplacer et venir nous rencontrer. Vous serez mis en relation avec un conseillère ou une conseillère de notre équipe pour pouvoir échanger sur votre projet et vous aiguiller et vous conseiller au mieux dans le développement du projet.
Joris, comment ça se passe le choix des... Il peut y avoir malheureusement parfois des refus.
Oui, absolument. À ce moment-là, c'est vrai que nous, on a l'intelligence de pouvoir travailler avec pas mal d'acteurs qui nous permettent aussi de recadrer le projet de l'entrepreneur, le resituer si besoin pouvoir lui permettre de s'inscrire dans un parcours entrepreneurial qui, effectivement, peut ne pas aboutir à un financement au début, mais après retravail de ce projet avec d'autres partenaires comme par exemple la BGE, le Cité Lab.
Qu'est-ce que c'est la BGE?
Bah écoutez, la BGE, c'est un des partenaires aussi historiques de l'association qui est une
association. Il sert à quoi?
Alors, c'est la boutique de gestion donc, qui a pour objectif de pouvoir accompagner les entrepreneurs, notamment dans l'élaboration du business model de leur activité et du chiffrage.
Alors, on va juste en un mot parler de business model et puis on verra ça un peu plus loin avec nos deux invités qui vont suivre dans l'étincelle. Business model, un mot américain un peu barbare, un peu sauvage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Modèle économique?
Exactement, permet effectivement de, en tout cas cette structure permet d'accompagner les entrepreneurs dans l'idée de développer l'idée du projet et de permettre de matérialiser de manière concrète via ce BM, business plan, un modèle un peu chiffré et une direction à donner au projet.
Un modèle le plus chiffré possible et le plus pointu possible.
Alors oui, et après c'est pas forcément effectivement quelque chose qui est un prérequis pour venir, en tout cas venir nous voir nous à l'ADI, mais ça fait partie en tous les cas, comme je vous le disais tout à l'heure, des exemples de structures vers lesquelles nous on peut orienter l'entrepreneur en fonction de son besoin.
Voilà, en d'autres termes, si le plan de développement, le business model, le plan de business, appelons ça comme on veut, c'est pas grave, et pas au point, vous avez les moyens, en tout cas, d'aider celui qui cherche à être bénéficiaire de ce microcrédit, vous avez les moyens de le diriger pour qu'il affine son projet.
Exactement. Ça peut se faire effectivement en interne via nos bénévoles ou via d'autres associations.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Joris Blondeau. On va s'adresser maintenant à vous, François Le Bélanger. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait la gentillesse de venir nous rejoindre au Créa Café Bailou. D'ailleurs, on va voir avec Louise tout à l'heure comment ça s'est passé, parce que Louise aussi, vous êtes la prêtresse de cet endroit et vous nous accueillez ici. Mais on va d'abord démarrer avec vous, si vous me le permettez. François Le Bélanger, vous êtes producteur de spectacles vivants. Et vous avez été financé par l'ADI. Alors, déjà, on va parler de votre métier, et puis on parlera après de comment ça s'est passé, le déroulé de votre financement. C'est quoi votre métier? C'est quoi un producteur de spectacles vivants?
Bah écoutez, donc un producteur en spectacle vivant, nous aujourd'hui l'activité c'est le spectacle, l'humour. En fait on est positionné sur l'humour, c'est-à-dire qu'on fait le développement d'humoristes. Aujourd'hui notre société, ça fait 2 ans qu'elle existe, on accompagne 2 artistes en développement et on essaye de les promouvoir auprès d'un public, auprès des salles, des théâtres et de les développer pour qu'ils puissent évidemment nous aussi en vivre et aussi en vivre par la suite.
Quand vous dites producteur, ça veut dire quoi ? C'est quoi vos actions concrètes avec vos artistes ?
On fait de la mise en relation entre l'artiste et des metteurs en scène, entre l'artiste et des co-auteurs, entre l'artiste et les salles de théâtre. Et notre action principale, c'est de les accompagner à créer leur spectacle en entier, on va dire, l'accompagner sur les meilleures choses à leur apporter, avec notre expérience à nous, et les mettre en les meilleures conditions.
François Le Bélanger, il fallait de l'argent pour démarrer tout ça ?
Oui, il fallait de l'argent pour démarrer tout ça. Oui.
Pourquoi faire ?
Bah, déjà pour assurer la pérennité de la société et en deuxième aussi de payer des salaires parce qu'évidemment on paye les artistes avec qui on travaille. Donc c'était aussi pour leur assurer cela.
Alors, vous vous êtes rapproché de l'ADI en préparant cette émission. Brièvement, tous les deux, je vous ai posé la question, je vous la repose à nouveau. Comment vous avez découvert l'ADI et qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous.
Écoutez, c'est très simple. On a fait des recherches avec mon associé sur Internet à pouvoir trouver un financement assez immédiat sur la société. On avait besoin de trésorerie à ce moment-là. Donc on a contacté l'ADI. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que moi, j'habite dans le 20e arrondissement de Paris et j'ai trouvé une agence qui était juste à côté de chez moi. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai rencontré ma conseillère. On a parlé du projet, j'imaginais en tout cas de pouvoir faire avec l'ADI. Et donc du coup, après, il y a une commission, évidemment, et mon projet a été accepté. Et j'ai pu bénéficier de l'aide de l'ADI.
Ça veut dire que les banques, vous avez refusé tous les prêts possibles ?
Alors, pas du tout. C'est que j'ai pas...
Pourquoi vous n'êtes pas adressé à des banques normales ? Enfin, partant du principe que l'ADI, ce n'est pas tout à fait une banque, on l'a vu en première partie de cette émission, mais plutôt un organisme de crédit normal. Pourquoi vous n'êtes pas adressé à une banque ?
C'était un besoin de trésorerie immédiate. C'est-à-dire que partir avec une banque, c'était un financement beaucoup plus gros, je pense, dans la structure. Et je n'avais pas le besoin immédiat en fait, de passer par une banque, sachant que j'avais des rentrées d'argent qui allaient arriver. Mais il fallait absolument que je puisse trouver un financement rapide et immédiat.
Alors vous frappez à la porte de l'ADI, vous les rencontrez, vous leur présentez votre projet. Et comment ça se passe derrière ?
Je présente le projet par rapport au financement, comment je vois les choses, avec les acteurs qui m'accompagnent dans la société, avec les 2 humoristes, présenter un peu le projet, c'est-à-dire comment on fait pour... excusez-moi.
Vous arrivez avec les comédiens et vous montrez ce qui se passe sur scène, ils vont faire une scène devant les responsables de l'ADI ?
Non, pas du tout. J'écris le projet, exactement. J'écris le projet sur comment je vois les choses, moi, en tant que producteur, pour accompagner les artistes. Et du coup, je montre un peu les besoins financement, ce que j'ai besoin pour pouvoir en fait continuer à être pérenne dans ma société.
Ça veut dire que votre activité était déjà en activité ?
Tout à fait, oui. J'ai créé la société il y a 2 ans avec mon associé et on a eu besoin du financement il y a 4-5 mois.
D'accord. Là, c'était plutôt une machine qui tournait mais qui avait besoin d'un coup de pouce. Quel montant vous avez emprunté ?
Alors on a emprunté 6 000 euros à l'ADI. Donc c'est plutôt très positif dans le sens où on a un remboursement de 4 000 euros sur les 2 premières années et ensuite on a 2 000 euros à rembourser à taux zéro avec la BPI qui accompagne aussi avec l'ADI.
Voilà, on l'a vu en première partie de cette émission avec Joris Blondeau. L'ADI fait appel à des banques, les banques partenaires qui financent, qui amènent les fonds. Et ensuite, c'est l'ADI qui sélectionne les projets. Le vôtre a été sélectionné. Alors, aujourd'hui, ça se passe comment ? Parlez-moi de vos artistes, allez, vous gênez pas.
Bah écoutez, j'ai une très bonne nouvelle parce que hier soir, nous étions sur la cérémonie des Augustes, qui sont la cérémonie de récompense pour les humoristes. Et on a un de nos artistes, Hugo Pêcheur, qui est parisien et qui joue à Paris au Beau Saint-Martin. Écoutez, on a gagné le prix de la révélation de l'année. Donc on est très contents. Et j'ai aussi une autre artiste qui s'appelle Élise Giuliani, avec son spectacle Une belle bourrine, qui est en tournée actuellement en toute la France et qui sera à Avignon aussi à partir de juillet pour le Festival d'Avignon.
Alors, je ne savais pas que la cérémonie des Augustes existait. Vous venez de m'apprendre un truc. Auguste, on le rappelle, c'est le personnage du clown.
Exactement, mais je crois que on va dire les Augustes, on a pu rencontrer le créateur de l'Auguste, il s'appelle aussi Auguste. Donc je ne sais pas s'il y a un lien dans toute son histoire, un peu comme les Césars ou qui a été créé pour ça, mais là les Augustes c'est un lapin, c'est un énorme lapin, donc voilà, très drôle.
Alors, on rappelle le nom des artistes, on rappelle les lieux où ils vont passer ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est Hugo Pêcheur avec son spectacle Clochette. Il est actuellement en tournée aussi dans toute la France et reprendra à partir de septembre, normalement, au Beau-Saint-Martin, à Paris. Et l'autre artiste, c'est Élise Giuliani avec le spectacle Une belle bourrine, qui est en tournée dans toute la France, qui sera aussi à Avignon pour son spectacle.
Vous restez avec nous, François Le Bélanger. On va s'adresser à Louise. Louise, rebonjour. Alors, c'est vachement sympa chez vous. Hein. Votre petit café, là, il est tranquille, je l'aime bien, il y a une déco sympa. Là, ça y est, vous avez le sourire. Je vous ai un peu impressionné avec ce micro au départ. Et racontez-moi la trajectoire d'une micro-entrepreneuse, car vous êtes une entrepreneuse aujourd'hui, parce que ça tourne ce que vous faites. C'est pas toujours une promenade de santé, on est bien d'accord. Hein. Comment vous avez été accompagnée? Racontez-moi avec Lady.
Alors moi, ça a été compliqué déjà avant d'aller voir l'ADI. J'ai ouvert avec mes fonds personnels, avec mon capital personnel. Et en fait, malheureusement, j'ai dû ouvrir fin mai. Je voulais ouvrir en mars, mais on n'ouvre jamais quand on veut. Et en fait, j'ai ouvert quand c'était les jours fériés, les ponts, les vacances d'été. Ce qui fait que quand on est arrivé fin août, je n'avais plus de trésorerie. Et en fait, moi, j'avais peur d'aller voir les banques. C'est pour ça que je ne suis pas allée et que je n'ai pas fait de prêt bancaire. Et en fait, je me suis dirigée vers l'ADI aussi en faisant des recherches sur Internet. Et en fait, ça a été hyper rapide. J'ai été écoutée. Et ça, j'étais vraiment... je suis toujours très reconnaissante de ma conseillère Léa de m'avoir autant écoutée, de m'avoir soutenue et d'avoir fait en sorte que je puisse faire un prêt du coup, de 9000 euros qui m'a permis de payer mon loyer jusqu'à décembre. Et après, c'était le pari que je sois toujours ouverte après décembre. Donc pour l'instant, c'est le cas. Et du coup, quand on est à l'ADI, on a le droit à un accompagnement. Donc là, moi, je suis suivie par une bénévole comptable et aussi par un bénévole banquier, parce que du coup, je compte quand même aller voir les banques par la suite, maintenant que je suis plus sereine et que j'ai plus de clés en main, d'outils.
Mais oui, vous êtes sereine, Louise, très sereine. Alors, puisque vous nous avez parlé de la trajectoire, on va y revenir. Là, on a oublié de parler du plus important. C'est quoi Créa Café? Ça sert à quoi?
Alors, le Créa Café Bailou, c'est un projet passion, on va dire. En fait, c'est des sessions de peinture de 2h30. Vous choisissez le support de votre choix. Ça peut être des châssis, des toiles, des magnettes et même du textile pour faire votre tote bag, par exemple. Et donc, vous avez 2h30. Tout le matériel est mis à disposition, que ce soit la peinture, les accessoires, les fleurs séchées, les feuilles d'or. Et vous avez aussi une boisson qui est incluse dans la session. Et bien sûr, moi, je suis là pour vous donner des conseils, pour vous partager ma passion, qui est la peinture, que je pratique depuis l'âge de 5 ans.
Voilà, c'est le Créa Café. Alors, bien sûr, on peut y boire un café.
Oui, bien sûr, c'est dans le nom du lieu. Donc, je fais barista et j'anime des ateliers.
Alors, vous êtes animatrice d'ateliers de peinture, on va résumer ça comme ça. Vous avez un petit lieu sympathique avec des petites salles, très bien, très joliment décorées. Et vous êtes ouvert du matin au soir, certains jours, comment ça se passe?
Alors déjà, merci pour le petit mot sur la décoration, parce que c'est une décoration qui me tient à cœur, vu que c'est inspiré des années 70 aux années 2000. Donc il y a la génération de mes parents et ma propre génération fin 90-2000. Donc déjà, merci pour ça. Ensuite, je suis ouverte du mercredi au dimanche. Donc le week-end, je suis ouverte de 10h à 20h30, donc tout le week-end, matin au soir. Et sinon, c'est à partir de 14h en semaine.
Alors, on va revenir à votre lieu. Hein. Je voudrais revenir à l'ADI parce que c'est quand même le sujet de notre émission aujourd'hui. Vous en êtes les acteurs, en tout cas, vous en êtes les conséquences puisqu'aujourd'hui vos entreprises fonctionnent. Vous avez été accompagné. Si ça coince, comment ça se passe? Vous pouvez appeler directement l'ADI? Il y a quelqu'un qui vous répond? Allez, qui veut répondre? François Le Bélanger.
Oui, bah écoutez, je pense que j'ai pas eu besoin aujourd'hui d'avoir cette action auprès de l'ADI, mais je pense sincèrement, au vu de notre présence aussi aujourd'hui, de l'accompagnement que fait l'ADI et se tient un peu au courant de comment ça se passe aujourd'hui dans nos sociétés, je pense que oui, ils seront présents pour donner un coup de main si il nous arrive un problème. Évidemment, il y aura de la discussion.
Alors, vous nous avez raconté comment vous avez eu connaissance de l'ADI. Est-ce que vous pouvez nous raconter, finalement, quand vous sortez de ces points de rencontre, quel est l'effet que ça fait? Parce que ça, c'est important de trouver un financement.
C'est un soulagement, et je pense que je peux parler pour nous deux.
Oui. François, allez-y.
C'est un soulagement parce que aujourd'hui, sans cette aide, je pense que ça aurait été compliqué pour moi de pouvoir payer mes artistes. Et donc, du coup, j'aurais pu potentiellement les perdre aujourd'hui, de ne pas pouvoir continuer le travail de développement qui a été fait depuis 2 ans. Donc, ça a été vraiment une force de l'ADI de nous accompagner là-dessus.
Même question, Louise. Quand on sort et qu'on a présenté son projet et qu'on a un accord, c'est quoi le sentiment profond qui vous envahit?
Moi, j'étais très émue, j'ai pleuré tout de suite au téléphone avec ma conseillère quand j'ai su que j'avais le prêt. En fait, ça a sauvé mon projet, ça a sauvé mon business. En fait, pour être honnête, hein, sans le prêt de l'ADI, j'aurais dû fermer. Donc voilà, je suis toujours extrêmement reconnaissante.
Si vous me le permettez, tous les deux, on va faire une deuxième pause musicale. Le titre que nous allons écouter à l'origine s'appelait « À bicyclette ». Mais en raison d'une chanson de Bourvil, qui avait un titre identique qui s'appelait « À bicyclette », elle fut enregistrée à la SACEM sous le titre « La bicyclette ». Pour les connaisseurs, c'est Pierre Barou qui avait créé avec Francis Lay cette chanson pour une musique destinée à de la publicité dans les années 60. Ça nous remonte à longtemps. Pierre Barou se remémorisait ses souvenirs d'enfance lorsqu'il était réfugié en Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait du vélo, tout simplement. Et ça lui a permis d'écrire cette chanson. Quelques années plus tard, un très grand monsieur, Yves Montand, le rencontre au Festival de Cannes. On est en 1966. Et il se met à fredonner au dessert, juste après un repas, la chanson. Et Yves Montand est attiré par cette chanson et il lui demande simplement quelques adaptations du texte. Il enregistre en 68, elle deviendra un immense succès alors que nous sommes en pleine période yéyé. Le yéyé débarque en France, Johnny, etc. Et là, Yves Montand, on écoute La bicyclette. Alors là, c'est une interprétation qui n'est pas de Yves Montand, mais qui a été faite par Pierre Bellin. Allez, on écoute La bicyclette.
De bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait François, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain. J'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Bonjour. Vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Voilà, c'est sur Aligre FM et c'est dans l'étincelle dans la ville. J'espère que vous avez tous bien profité de cette petite perle que l'on vient d'écouter. C'était La bicyclette, interprétée par Pierre Belin. Et aujourd'hui, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes au Créa Café by Lou avec sa responsable, Louise Collin, qui nous a accueillis, qui nous accueille toujours d'ailleurs. C'est dans le 20e arrondissement, avec cette formidable aventure que vous vivez avec l'ADI, parce que l'ADI, c'est présent dans vos esprits, vous l'avez bien expliqué précédemment dans cette émission. Nous sommes aussi avec François Le Bélanger, producteur de spectacles vivants. On attendait un troisième invité. Bon, bah, on essaiera de le rencontrer un peu plus tard. Ah, tiens donc. Bonjour, monsieur Martial.
Bonjour.
Eh bien voilà, on a le troisième invité, bah, ça tombe bien, parce que vous êtes particulier. Bon, déjà, vous avez la barbe, vous aussi, François Le Bélanger, vous avez la barbe, mais vous êtes un fabricant. Alors, si j'ai bien compris, un fabricant d'huile pour barbe bio, et l'ADI est intervenu pour créer votre micro, pour créer votre entreprise. Racontez-nous.
Alors, un petit ajustement, l'ADI n'a pas créé avec moi Napi, parce que Napi, du coup, c'est mon entreprise qui existe maintenant depuis 5 ans, mais m'a aidé justement à me propulser à un moment donné où j'en avais au final le plus besoin. Donc pour vous expliquer rapidement, donc fin 2024, j'arrive à ce qu'on appelle un plafond de verre, à un moment donné où dans mon expérience justement professionnelle, je dois justement financer le salaire de mon alternante. Et pour justement financer les deux derniers mois de mon alternante, je fais appel à l'ADI qui justement me pose à la fois un cadre, un accompagnement et surtout m'aide à finir justement l'année 2024 dans les meilleures conditions.
Et comment vous découvrez l'ADI ?
Alors, il faut savoir que l'ADI, je la découvre donc il y a 5 ans, lorsque je crée mon business plan, lorsque je crée aussi les premières bases solides de Napi, là où justement je me dis qu'à un moment donné, dans mon expérience d'entrepreneur, si je n'ai plus de fonds de trésorerie ou si il arrive un moment où j'ai besoin de financement, je vais recenser certaines banques et si les banques, justement, ça ne fonctionne pas, je vais aller me tourner justement vers des financeurs privés.
Et ça n'a pas fonctionné, les banques.
Exactement. Et même pour l'anecdote, j'ai d'abord fait un podcast d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Napi Paris, où j'ai passé...
Comment ça s'écrit le nom de votre produit, que tout le monde aille voir votre podcast ?
Alors Napi, c'est N-H-A-P-Y et Paris, là où j'ai passé une vingtaine voire trentaine d'entretiens avec des banques complètement différentes qui m'ont rapidement dit non, avant même des fois de venir à l'entretien qui était prévu 2 semaines à l'avance, ils m'ont dit non sans même écouter mon projet. Et donc c'est là que l'ADI justement est intervenu pour justement m'aider à financer les mois de salaire justement de mon alternante.
Alors on est dans un paradoxe, d'un côté les banques financent l'ADI et de l'autre côté quand Martial il tape à la porte d'une banque, alors 30 banques vous me dites c'est énorme, c'est non, vous êtes éconduit, un paradoxe complexe d'ailleurs. Alors là tous les trois finalement vous avez créé votre emploi, qui veut répondre à ça? Allez, on continue avec vous Martial.
Alors créer mon emploi, oui et non. Alors, au-delà de créer de l'emploi, moi, je voulais créer de la valeur. Je voulais surtout créer quelque chose que j'avais dans ma tête depuis des années, une souffrance au final à laquelle je n'arrivais pas à répondre, pour justement montrer surtout que, comme les gens qui sont aussi autour de moi, qu'un parcours qui est beaucoup trop dit comme atypique, au final, est censé être normal. Et donc, l'ADI m'a permis justement de rendre justement cette expérience un peu plus normale.
Un parcours qui semble atypique et qui en réalité est normal, vous fabriquez des produits pour la barbe bio. Alors, parlez-nous de vos produits bio, ça se passe comment? Où est-ce que vous trouvez les produits? Où est-ce que vous les fabriquez?
Alors, on a passé 3 ans avec des laboratoires français pour justement travailler sur une huile qui est aujourd'hui certifiée bio, made in France, 100% naturelle, et qui justement répond à plusieurs problématiques liées à la peau et à la barbe. Donc pour que justement les personnes qui veulent justement avoir une belle barbe ou juste l'entretenir, la faire pousser, moi il faut savoir que je suis une famille d'imberbes de base, alors vous ne me voyez pas, vous m'entendez, mais vous voyez mes bras, je n'ai aucun poil justement sur les bras, mais je voulais absolument avoir de la barbe, avec des produits sains justement qui étaient dédiés à mon type de peau et à mon type de barbe, de poils tout simplement. Et donc du coup, j'ai sorti donc ce qu'on appelle l'élixir, qui est le premier produit. Aujourd'hui, on travaille avec le cercle B2B, donc des professionnels, c'est-à-dire...
Alors B2B, on traduit un business to business, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise qui vend à d'autres entreprises, que l'auditeur, nos auditeurs puissent bien comprendre ce que ça veut dire, B2B, business to business. Oui, je vous en prie.
Exactement. Donc pour le parc professionnel, on travaille avec des barbershops, des instituts de beauté et des salons de coiffure. Et donc pour la partie B2C, donc business to consumer.
C'est-à-dire que pour le monsieur tout le monde qui veut se procurer vos produits, vous faites comment ?
On va sur notre site e-commerce qui est napi.fr, donc NHA2PY.fr, et on peut nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn.
Eh bien, j'ai envie de poser... Alors, merci Martial, vous restez encore avec nous, si vous le permettez. Je vous pose la même question, François Le Bélanger. Vous considérez que vous avez créé votre emploi ?
C'est un peu la même chose. Moi, j'ai eu besoin de la DIM. J'ai déjà créé, en fait, l'entreprise, il y a de ça 2 ans maintenant.
Mais en la créant, vous créez de la richesse et vous créez vos revenus et vous créez de l'emploi. Votre emploi ?
Oui, alors oui, non, moi j'ai 2 travails. C'est qu'aujourd'hui, le monde du spectacle vivant, c'est très compliqué de pouvoir continuer à vivre et d'avoir un salaire et tout ça. Enfin, je pense que tous les milieux artistiques sont très compliqués. Et aujourd'hui, donc j'ai un autre emploi. Je suis directeur dans une société de digital. Donc j'essaie de mixer un peu les deux pour pouvoir réussir à faire fonctionner mon entreprise et faire fonctionner aussi le travail où je suis actuellement. Donc non, je n'ai pas créé d'emploi. Je n'ai pas créé mon emploi. J'ai juste créé quelque chose que je voulais depuis très longtemps, de monter un projet artistique.
Même question pour vous, Louise. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez créé votre emploi, que vous créez, j'ai envie de dire, suffisamment de richesses pour y arriver ?
Alors, j'ai créé mon emploi dans le sens où, déjà, moi, je ne voulais plus avoir de patronne ou de patron. Je voulais être ma propre boss. Et j'ai créé l'emploi qui me plaît. Par contre, non, je ne compte pas me rémunérer avant au moins 1 an et demi. C'est pas prévu, là.
Et oui, c'est vrai, depuis les années 90, alors que l'on assiste à une montée du chômage inexorable, à une tiersarisation du travail, où le développement des services à la personne prenne le pas, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, appelons ça comme on veut, ça devient de plus en plus attractif, et ça permet aussi de trouver un emploi, et puis aussi de se réaliser. On voit bien tous les trois que vous êtes sur des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Et ça vous permet, en tout cas je vous le souhaite, de créer de la richesse pour pouvoir en vivre. C'est le cas pour vous, Martial ?
Alors oui et non. Un peu justement comme mes collègues à côté, moi à côté j'ai un emploi parce que je préfère tout simplement d'abord réinvestir dans mon entreprise. Et à côté de ça, je suis prof en école de commerce pour des formations de bachelor à master et sur des thématiques qui sont au final très proches de NAPI, qui sont le commerce, l'entrepreneuriat et le management.
Ça fait quel effet d'être finalement un travailleur indépendant ?
Sensation de liberté, voilà.
Même question pour vous, François Le Bélanger.
Oui, c'est un peu la même chose, je rejoins beaucoup la liberté. La liberté de faire un peu les choses qu'on a toujours voulu faire, donc avec notre propre engagement et notre propre le fait d'être patron de ce qu'on fait, oui.
Et vous, Louise ?
Alors, liberté, mais avec plus de pression. Parce que s'il n'y a personne, par exemple au Créa Café, si personne ne vient, il n'y a pas de revenus, personne ne peut y aller à ma place. Si je suis malade, je dois quand même venir travailler. On peut compter que sur soi-même. Quand on est entrepreneur.
Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, on pourrait faire une espèce de comparatif entre le travail d'un salarié et le travail d'un indépendant. Il y a d'autres contraintes quand on est salarié, vous le savez. Vous l'êtes encore vous-même, François ?
Oui, tout à fait, oui, les contraintes. Moi, ma priorisation, évidemment, c'est mon emploi fixe aujourd'hui, mais ce que je fais à côté, c'est je double mon temps dans la journée pour pouvoir être sûr de pouvoir aussi avoir un certain sérieux avec aussi mes humoristes à qui je travaille, où ils comptent sur moi, ils comptent aussi sur beaucoup de choses pour que je leur trouve des dates de tournée, des choses comme ça, oui. Donc oui, c'est hyper important, bien sûr, oui.
Même chose pour vous, Martial ?
Oui, tout à fait.
Et on va terminer avec vous trois. On voit bien que l'ADI, ça fait avancer à son rythme, même si ça peut aller très vite. Ce fut le cas finalement pour vous trois. On crée son business, on définit avec précision son offre, on calcule ses besoins, on présente le projet, et au moment de la bascule, bah, il se passe plein de choses. Vous nous l'avez décrit tout à l'heure, hein, quand vous êtes sorti de l'agence, tout était nettement mieux pour vous. Vous avez eu des conseils, vous avez été suivi. Allez, qu'est-ce qu'on dit, Martial, pour l'année qui se présente ? Qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous me faites Madame Irma avec la boule de cristal.
Alors, je regarde. Non, ce que j'imagine et ce que je souhaite justement pour Napi, c'est encore de passer des paliers au-dessus, de pouvoir se développer.
C'est quoi les paliers qu'il faut passer ?
C'est avoir plus de partenaires, partager la vision aussi à travers la France.
C'est quoi les partenaires que vous cherchez ?
Alors les partenaires...
Vous ne gênez pas, hein ?
Non, mais des partenaires comme l'a dit, tout simplement, qui puissent me permettre de m'exprimer aussi outre que mes propres réseaux. À la fois également avoir des partenaires financiers aussi, des partenaires aussi de collaboration comme d'autres professionnels. Aujourd'hui aussi, on commence à se développer outre France, donc Portugal et dans certains pays d'Afrique. Donc voilà. Et je souhaite aussi que mon histoire et l'histoire de ceux qui sont à côté de moi puissent inspirer surtout d'autres personnes.
Eh bien, c'est le but de cette émission. Même question pour vous, François Le Ballanger. C'est quoi le 2026, la boule de cristal pour vous ?
Bah écoutez, moi je souhaite du succès à mes artistes, parce que si mes artistes réussissent, je vais réussir. C'est-à-dire que ça sera un vaste communicant. J'ai besoin que les gens viennent voir mes artistes sur scène, que ce soit à Paris ou en tournée. Donc je souhaite ça, je souhaite en tout cas qu'ils puissent remplir leur salle.
Et vous, Louise ? Allez, Madame Irma, racontez-nous, 2026, qu'est-ce qui va se passer ici, dans votre café ?
Alors, en tirant les cartes, j'ai vu qu'il y aurait beaucoup de réussite, beaucoup de sourires, beaucoup de rires, que mes clients et mes clientes seront ravis d'être venus au Créa Café, d'avoir partagé un tel moment et qu'ils aient apprécié en fait l'expérience. Et en fait, moi, c'est ce qui est le plus cher à mon cœur, en fait, vraiment, littéralement.
L'étincelle dans la ville va bientôt se terminer, mais avant de nous quitter, je voudrais bien sûr vous remercier, dire un grand merci à nos invités. Merci beaucoup, Martial.
Merci à vous.
Je vais y arriver. François, merci.
Merci à vous.
Et merci beaucoup, Louise.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Je voudrais bien sûr rappeler que nous sommes au Créa Café Bailou. C'est vous qui le dirigez, c'est vous qui l'avez créé. C'est sympa comme tout. C'est depuis cet endroit que nous réalisons cette émission. Et donc, merci d'avoir bien voulu témoigner tous les trois. Merci aussi à Joris Blondeau. Joris Blondeau, il a disparu. Je ne sais pas où il est. Bah, c'est pas grave. On lui dit, ah, bah, Joris, venez par là. Il se planque derrière les barreaux. Là, je ne sais pas pourquoi. Là. Merci, Joris. Alors, tenez, même question avant qu'on se quitte. C'est quoi 2026 pour l'ADI ?
Ah bah, c'est une année d'ambition avec des objectifs de pouvoir toujours financer et accompagner le maximum de personnes. Aujourd'hui, enfin en tout cas cette semaine, tout au long de la semaine et des territoires, on mène une campagne de sensibilisation, de communication autour de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Donc l'accent...
Ça c'est très important, hein. L'entrepreneuriat dans les quartiers, vous y êtes très attaché. Il y a des richesses, il y a des pépites, il y a plein de gens qui sont prêts à se lancer, mais ça rame.
C'est ça, et donc ben, il faut qu'on puisse aussi mettre le pied à l'étrier et proposer aussi des nouveaux formats d'animation pour pouvoir aller toucher ces publics qui ont besoin d'aide et besoin de nous. Et voilà, c'est le sens qu'on souhaite porter à notre action cette année.
Merci beaucoup à tous les quatre. Merci aussi, un grand merci à l'agence Haïku, Louison Roche qui m'a aidé à préparer cette émission. Alors, des témoignages pleins d'enseignements, on l'a entendu, on en a appris des choses aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'adresse mail, les podcasts de toutes les étincelles dans la ville quand vous voulez sur le site d'Aligre FM. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn. À la réalisation technique, Didier Robert, que je salue chaleureusement. Avant de nous quitter, je tiens à préciser qu'Aligre FM est avant tout un espace d'expression, de partage, de rencontre, d'échange, animé par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs, de réalisateurs techniques libres et indépendants, tous bénévoles, et tout au long de l'année, nous recueillons les paroles en prenant le temps de penser. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, hein, pendant ces 56 minutes. Voilà, en regardant le monde dans toutes ses composantes. Aligre FM, c'est sur votre poste de radio en FM, sur Paris-Île-de-France, sur le 93.1, en DAB+, et bien sûr, grâce au web, bah, partout où il y a Internet, vous pouvez écouter toute l'année Aligre FM. C'est quand vous voulez, comme vous voulez, pour retrouver en réécoute toutes les émissions d'Aligre FM. Et permettez-moi de vous rappeler que c'est gratuitement que vous écoutez nos programmes. Et oui, la radio, c'est gratuit. Vous branchez, vous mettez le bouton en route, et c'est cadeau. C'est un média entièrement gratuit pour tout le monde. Et pour l'occasion, je voudrais préciser qu'Aligre FM est une radio associative non commerciale, sans publicité, et qui fête ses 45 ans, ce qui est loin d'être anodin. Vous souhaitez soutenir Aligre FM, rien de plus simple. Vous allez sur le site internet d'Aligre FM et vous faites un don. Je voudrais aussi remercier tous les collectifs qui organisent et animent l'association d'Aligre FM, toute l'équipe technique et le collectif Le Moment, notre partenaire. À la post-production, merci à toute l'équipe, Didier à nouveau, Stéphanie Malaret et Gaspard Proudhon. Allez, il ne me reste qu'une chose à vous dire à tous et à toutes. Pour ma part, on se retrouve lundi matin à 9h. Et avec grand plaisir pour une nouvelle étincelle dans la ville. C'était depuis le Créatif Café Bailou, 45 avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement de Paris, que cette émission a été réalisée. Et on y a été très bien accueillis. Voilà, très très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour le coup, en ce qui me concerne aujourd'hui, eh ben, l'étincelle dans la ville, c'est terminé.
Les brouillages de sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.